Bonjour à tous, bienvenue à tous pour ce dernier culte de l'été. Bienvenue à nos amis réformés. Bienvenue aux habitués de l'église évangélique de Mérin, enfants compris, grand-papa et grand-maman compris aussi. Donc je suis. Et bienvenue aussi aux personnes qui sont peut-être juste des visiteurs, des gens de passage aujourd'hui, et à vous qui nous regardez, qui nous suivez depuis le streaming. Pour ce dernier, moi j'aime beaucoup les cultes de l'été, parce que, en fait, c'est différent, hein. On est une fois chez nous, une fois au centre œcuménique. L'été, c'est spécial, il y a moins de voitures, sur les routes, il y a moins de personnes dans les magasins, on trouve toujours de la place pour se parquer quand on va en commission. Et puis, il y a tous ceux qui partent en vacances, et c'est à ceux qui restent là. Et pour nous aussi, il y a quelque chose de spécial. On va chez les uns et chez les autres. Et puis, je dois reconnaître que la façon de faire les cultes réformés, pour moi, c'est un grand repos. La liturgie protestante, où on se présente devant Dieu tel qu'on est, et où on se rappelle qu'on est accepté tel qu'on est par Dieu, ça me repose toutes les fatigues de la nuit. Pour ce dernier culte de l'été, c'est Nicolas Jeunecamp. Ah, il est là. Je te cherchais au premier rang. Frère de David, que vous connaissez. Il est pasteur actuellement à Satigny, mais il sera bientôt à Mérin. C'est lui qui nous conduit dans la méditation aujourd'hui. Et pour commencer ce culte, nous avons d'abord quelques annonces. Tu veux commencer ?
Bonjour à toutes et tous. Je devais regarder Sylvain, j'ai oublié de le faire. Merci aussi pour l'accueil. C'est vrai aussi pour nous une joie de faire ces cultes en commun. Et effectivement, juste quelques annonces pour les prochains cultes qu'on aura dans notre région au niveau réformé. La semaine prochaine, ça sera donc deux cultes à Satigny et à Vernier. À Satigny, ça sera un culte un petit peu particulier. Ça vient d'être dit, effectivement, je serai le pasteur répondant. C'est le terme qu'on utilise pour la paroisse de Mérin à partir de cette rentrée. Alors la semaine prochaine, ça sera un peu un culte d'au revoir au mandement, d'accueil de ma collègue Agnès Cruzelli. Je crois qu'elle a fait le culte fin juillet ici, qui va prendre ma succession sur le mandement. Et puis, le 1er septembre, à Mérin, au centre écuménique et au Lignon. Et là, ça sera aussi un culte un petit peu particulier, parce que ça sera l'occasion de remercier Bernard Félix, qui a fait un remplacement pendant tout ce printemps, et de m'accueillir dans la paroisse ici à Mérin. Et j'ai mentionné aussi, parce que c'est important, le 15 septembre, ça sera notre culte suivant, il aura lieu ici, en parallèle, on sera pas les deux en même temps, au même endroit. Mais en effet, on a dès demain des travaux qui commencent au centre écuménique. Et pour cette raison, le culte, normalement, il n'y en aura qu'un. Le 15 septembre, on le fera dans la chapelle ici. Donc, pour les réformés qui voudront venir au culte, n'allez pas au CEPOM, on le redira encore. Merci.
Et pour l'église évangélique, je vous rappelle le culte de dimanche prochain, 25 août. C'est le culte de la rentrée. Il sera conduit par Thierry et Rebecca Terra. Et après le culte, nous aurons des grillades. Des grillades sur le mode des grillades de l'été, c'est-à-dire que vous apportez votre manger, vos services, vos boissons, vos verres. Voilà. Simple, le plus simple possible, le plus convivial possible. Et puis, il y a aussi, mardi soir à 20h15, la réunion de prière communautaire pour la reprise spéciale rentrée, à 20h15, probablement dans la salle du groupe de jeunes. Musique.
Dès que le soleil se lève, Je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi pour un cœur avec toi. Je suis là dans ta présence. Et quand je suis là dans ta présence. Et dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je cours.
Peuple d'Israël, compte sur le Seigneur, car il est bon. Il a mille moyens de nous délivrer. C'est lui qui nous délivre de toutes nos fautes. Peuple de Merin et environ, compte sur le Seigneur, car il est bon. Il a mille moyens de nous délivrer. C'est lui qui nous délivre de toutes nos fautes. C'est un extrait du psaume 130. Soyez accueillis dans ce culte par la bonté, la délivrance et le pardon de notre Seigneur. Et ne craignez pas de l'accueillir dans votre cœur. Il vous connaît, il tient à vous. Nous prions. Seigneur notre Dieu, oui, tu tiens à nous et c'est ce qui nous attache à toi. Nous venons à toi avec nos forces et nos faiblesses, nos découragements et nos enthousiasmes, avec notre besoin de rencontrer les autres et notre difficulté à accueillir certaines de leurs différences. Seigneur, nous avons besoin de toi, d'être rassurés par ton amour. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Par ton esprit, viens habiter notre culte. Que ton esprit nous rende sensibles à la parole que tu as préparée pour nous et qu'il nous aide à rencontrer les autres. Sois aussi avec tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre et avec tous ceux qui te célèbrent à Meyrin, à Genève, en Suisse et partout dans le monde. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Amen. Les enfants, est-ce que vous connaissez l'histoire de Ruth? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, on va vous la raconter. Bon, c'est la famine en Israël. Et Elimelech, il y a quelqu'un qui va jouer Elimelech. Pourquoi pas Mathieu? Mathieu, tu viens me rejoindre là sur la scène, s'il te plaît. Tu peux te mettre par là, parce que tu vas faire un voyage. Et puis, il décide avec sa femme Ruth. Non, pardon, je vais trop vite. Avec sa femme Noémie. Daniel, tu veux nous rejoindre? Oui, tu viens aussi sur la scène. Et leurs deux fils, Malon et Kilion. Malon, Jonas, tu vas faire Malon? Et John, tu fais Kilion. C'est la famine et ils décident d'aller en Moab, qui est par là-bas. Vous partez en Moab, où il n'y a pas la famine. Vous pouvez vous mettre en bas de la scène, là-bas. Oui, c'est ça. Malon et Kilion, mettez-vous peut-être plus devant que les gens vous voient. Allez un peu plus là, voilà. Malon et Kilion se marient. Il y a une femme qui s'appelle Orpa. Anne-Marie, tu veux faire Orpa? Et Ruth? Qui va faire Ruth? Mélina, tu fais Ruth? En Moab, Elimelech meurt, tu meurs. tu tombes par terre. Mets par terre. Voilà, vas-y, mets-toi par terre. Puis après, tu peux t'en aller. Kilion et Malon meurent. Voilà. Et Noémie se retrouve seule. Noémie, c'est Daniel, se retrouve seule avec Orpa et Ruth. Noémie décide, elle apprend que la famine est terminée en Israël. Alors elle décide de rentrer en Israël. Dans un premier temps, ses belles-filles vont avec elle. En route, on va mettre Noémie en premier. Voilà, Noémie en premier. En route, Noémie s'arrête, elle dit à ses belles-filles. Qu'est-ce qu'elle dit à ses belles-filles? Je veux que vous soyez heureuses et en sécurité. Rentrez chez vous, dans vos familles.
Dans vos familles, rejoignez vos familles. Et moi, je rentre avec elle.
Bon, Orpa repart dans sa famille. Et Ruth, elle dit, non, moi, je veux continuer avec toi. Hein, voilà. Donc, vous arrivez en Israël. Vous êtes de nouveau en Israël. Voilà. Elles sont démunies, elles n'ont rien pour vivre. Noémie, tu peux t'asseoir sur la chaise. Et Ruth part glaner. Tu pars glaner. Oui, c'est ça, glaner. Glaner, c'est ramasser les épis derrière les moissonneurs. Noémie part glaner. Par hasard, elle tombe dans le champ de Boz. Où est Boz? Claude, tu vas faire Boz.
Tu seras mieux assis.
Boz voit Ruth et il l'accueille. Voilà. Voilà. Bon, pas tout à fait, encore comme ça. Mais il lui dit, travaille toute la journée dans mon champ. À midi, il lui donne à manger. Voilà. Pardon. Et puis, à la fin de la journée, Boz lui donne beaucoup de grains à ramener vers Noël. Voilà, tu lui donnes du grain. Et Ruth bat le grain, elle ramène le grain, elle bat ses épis, elle ramène le grain à Noémie. Voilà, Boz, tu peux rester par là. Toi, tu lui ramènes à Noémie et tu racontes à Noémie, Ruth raconte comment s'est passée la journée. Quand Ruth voit comment ça se passe entre Noémie et Ruth, elle échafaude un plan. Quand Noémie voit comment ça se passe entre Boz et Ruth, elle échafaude un plan. Elle lui dit quelque chose, hein, tu lui expliques à l'oreille, là. C'est le jour du battage, tu bats, hein. Avec un fléau, tu bats le blé, ça sépare la balle du grain. Et puis quand il a fini, il mange. Et après, quand il a bien mangé et bu, qu'il s'est réjoui avec les ouvriers, il va se coucher sous une couverture. Et que fait Ruth, selon le conseil de sa belle-mère? Elle va se coucher, elle soulève un coin de la couverture et elle va se coucher aux pieds de Boz. Voilà. Au milieu de la nuit, Boz se réveille et il découvre une femme couchée à ses pieds. Bon, ils discutent ensemble. Boz est le proche parent, c'est-à-dire qu'il a le droit de rachat ou de délivrance. Ça veut dire qu'il a le droit de préemption sur les terres de celui qui est mort pour que les terres restent dans la famille. Mais s'il accepte d'acheter les terrains, il doit aussi épouser la veuve. Donc, Boz est d'accord d'épouser Noé, Ruth, de racheter les terrains et de... Voilà. Voilà. Alors, Ruth rentre chez Noémie. Hein? C'est le matin, tout le monde se lève. Ruth rentre chez Noémie, elle raconte à sa belle-mère tout ce qui s'est passé. Bon, le lendemain, Boz fait les choses dans l'ordre. Voilà, tu peux retourner vers Boz. Il épouse Noémie, Ruth. Voilà. Ruth devient enceinte. Tu peux montrer ton ventre. Elle a un fils. Et voilà, elle a un fils. Elle l'apporte à sa belle-mère. Et quand les voisines voient Noémie avec un bébé, les voisines disent « Loué soit Dieu, il ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te délivrer, il ne t'a pas laissé seul. » Nous louons Dieu.
Amour, il est la source de cet amour. Laissons-le venir nous toucher, nous accompagner. Et ce chant qu'on va prendre maintenant, il est nouveau, on l'a entendu en entrée de culte. Il nous invite à cette proximité avec lui, cœur à cœur.
Yeah.
Prions. Seigneur, nous avons chanté que nous aimons les cœurs à cœur avec toi. Parce que quand nous sommes près de toi, dans ta présence, nous sentons que tu nous portes, que tu nous aides, que tu es là. Et c'est là l'important. Seigneur, je te remets les enfants. Ce sont des cadeaux précieux. Donne-nous la sagesse à nous adultes pour les aimer, les conduire dans la vie. Et sois avec eux spécialement dans cette journée, dans cette matinée, avec Jennifer. Qu'ils connaissent que tu les aimes et qu'ils aient envie de te suivre, de connaître ce cœur à cœur avec toi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tes yeux sont fixés sur chacun d'eux et chacun de nous. Tu ne nous oublies jamais. Tu ne nous laisses pas dans un coin. Tu nous mets dans ta présence. Merci. Amen. Alors les enfants, vous pouvez rejoindre l'étage inférieur avec Jennifer. Elle est déjà en bas, Jennifer ? Ah, oh, pardon, excuse-moi. Pardon. Je suis passée rapidement sur le début du chapitre 4, après la nuit de Boaz et Ruth. Boaz, du coup, il a fait les choses exactement dans les règles, parce qu'il y avait un autre proche parent qui avait la priorité sur lui. Donc, il a été à la porte de Bethléem, le village d'où il venait, où ils habitaient. Et quand il a vu passer ce proche parent, il l'a arrêté. Il a pris 10 témoins avec lui et il a expliqué la situation. Noémie est là, elle a un champ, tu peux le racheter. Le proche parent a dit, d'accord, je rachète. Puis Boaz a dit, oui, mais si tu rachètes le champ, tu dois aussi épouser la veuve. Elle a dit, ah non, ça je ne peux pas faire. Parce que ça voulait dire que le champ, après, il revenait à la descendance du mari de Ruth. Il ne revenait pas à sa famille. Il a dit, non, là, moi, je ne peux pas faire ça. Donc, Boaz est libre de racheter le champ et d'épouser Ruth. Il épouse Ruth. Et là, je vous lis les versets de Ruth 4, 13 à 22. Alors, Boaz prit Ruth comme épouse, elle devint sa femme. Il s'unit à elle et le Seigneur lui accorda de concevoir et elle donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur, aujourd'hui il ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te délivrer, que son nom soit proclamé en Israël. Il te redonne la force de vivre. Il est le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant, elle le tint serré contre elle, puis elle se chargea de l'élever. Les femmes du voisinage lui donnèrent son nom. Elles disaient, « Noémie a un fils. » Elles l'appelèrent Obed. Obed fut le père de Jessé, père de David. Voici la descendance de Pérès. Pérès est le fils de Tamar, belle-fille de Judas, Judas fils de Jacob. Pérès eut un fils, Esron. Esron eut un fils, Ram. Ram eut un fils, Aminadab. Aminadab eut un fils, Nakon. Nakon eut un fils, Zalma. Zalma eut un fils, Boaz. Boz eut un fils, Obed. Obed eut un fils, Jessé. Et Jessé eut un fils, David. Parole à Nicolas.
Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On aurait pu penser que l'histoire se terminait comme ça. Peut-être que celles et ceux qui ont joué la pièce étaient contents de ne pas arriver à cette étape finale. Mais merci en tout cas aux actrices, aux acteurs. Et effectivement, on a l'impression que cette histoire se termine comme un conte, comme on les aime bien, un peu comme ce roman d'été qu'on a parcouru ensemble durant ces 2 mois, qui se termine sur un happy end. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. En tout cas un, on ne sait pas s'il y en a eu d'autres, mais il y en a en tout cas eu un. Et c'est vrai que cette histoire se termine bien, et je trouve qu'elle est traversée par une bienveillance tout au long de ce livre. Ça commence par la bienveillance de Noémie, qui a plein de bienveillance pour sa belle-fille Ruth, qui lui dit « Mais rentre, reste chez toi, reste en Moab, reconstruis ta vie. » Et puis il y a la même bienveillance de Noémie pour sa belle-mère, mais non, avec cette promesse si belle, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, et qui accompagne finalement sa belle-mère pour essayer de lui donner de quoi survivre. Et effectivement, il y a enfin la bienveillance de Boaz qui accueille Ruth, il accueille aussi Noémie par là, et cet enfant qui naît. Un enfant qui est une vie extraordinaire pour Noémie en particulier. C'est étonnant, c'est bien Ruth qui accouche évidemment, mais on voit que toute la fin du texte est rattachée à Noémie. Pour Noémie, on a l'impression que c'est presque plus qu'une vie, c'est une survie qui lui est donnée, de quoi continuer son existence. Alors ces liens entre ces 3 personnes, Noémie, Ruth, Boaz, c'est intéressant, on peut mettre l'image suivante, parce qu'effectivement c'est 3 personnes, mais finalement de familles très différentes, et qui vont se retrouver ensemble. Elles vont toutes se retrouver ensemble par alliance. Noémie, au début, elle n'est pas de la famille de Boaz, mais ça se trouve que par son mariage avec Elimelech, elle le devient. Par alliance, elle se retrouve être de la même famille. On l'a entendu, ça a des conséquences sur la suite. Ensuite, évidemment, que Noémie et Ruth, eh ben, c'est par le mariage d'un des enfants de Noémie qu'elles se retrouvent de la même famille. Ruth, la Moabite, Noémie, qui vient de Bethléem, n'étaient pas de la même famille. Et enfin, le texte qu'on vient d'entendre, entre Ruth et Boaz, ils n'étaient non plus pas de la même famille, c'est par un mariage, une alliance, qui se retrouvent ensemble. 3 familles très différentes, 3 familles qui ont des parcours de vie très différents. Noémie qui fait un aller-retour à Moab, Ruth qui vient de Moab, Boaz qui reste juste à Bethléem. 3 parcours différents, 3 familles différentes, mais qui finalement se retrouvent ensemble, unies, et portent la vie à Bethléem. Vous me voyez peut-être venir, mais c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose ici, aujourd'hui à Mérin. 3 familles avec des parcours différents, 3 familles qui cheminent, et 3 familles qui ensemble portent du fruit. Je fais allusion, si vous ne l'avez pas deviné, aux 3 églises ici à Mérin. On peut passer le dia suivant. Catholiques, protestants, évangéliques qui se retrouvent, qui travaillent ensemble sur la voie de l'unité et qui essayent de porter du fruit ici où on est. Alors je vais me concentrer sur les liens qu'on a entre nous, Église évangélique et Église protestante, en redisant brièvement notre histoire. Sans doute que certains la connaissent, peut-être d'autres pas. Mais Noémie, c'était important qu'elle connaisse son histoire, qu'elle sache que Boaz, il était de sa famille. 10 ans après être partie à Moab, elle revient, elle sait 10 ans après, oui, mais ce Boaz, il est de ma famille, c'est important. Eh bien, c'est aussi important de savoir connaître un peu notre histoire. Sans doute, comme je le dis, certains la connaissent, d'autres pas. C'est l'image suivante. Alors, je ne suis pas remonté jusqu'à la Pentecôte. Hein. Désolé, c'est peut-être un petit peu petit. Mais on a des origines communes. On se déclare toutes deux issues de la réforme protestante du XVIe siècle, de Calvin. Mais avec des parcours, là aussi, différents. L'Église évangélique, issue du réveil du XIXe siècle, la paroisse protestante issue des évolutions de l'église protestante, qui s'appelait encore à l'époque Église nationale protestante de Genève. Ça montre des différences là aussi. Mais aujourd'hui, l'église évangélique de Mérin est quand même très différente d'une église du réveil du XIXe siècle. La paroisse protestante est bien différente de l'église de Calvin du XVIe siècle. Oui, on est tous différents, mais je crois que ce qui est important, c'est que justement, on n'est pas tant l'église de Calvin ou l'église du réveil, mais qu'on est l'église de Jésus-Christ. C'est ça qu'on est invité à être aujourd'hui. Et puis, de cette histoire, au XXe siècle, il est arrivé quelque chose de nouveau, parce que c'est toujours à construire et à reconstruire. Il s'est passé des choses aux deux bouts de l'aéroport. Du côté de Collevray, il y avait une communauté évangélique qui a dû se déplacer parce que l'aéroport grandissait et l'église a choisi de venir ici, à Mérin, où là, c'était la cité qui grandissait, qui se développait. La paroisse de Mérin, elle n'existait pas non plus au début des années 60. C'était la paroisse de Vernier-Mérin. Et là aussi, quand la cité s'est développée, on a dû partager cette grande paroisse, parce que ça donnait du sens qu'il y ait une paroisse à Vernier et une paroisse à Mérin. Donc on a continué ensemble, et comme je le disais, c'est toujours à construire. Depuis le début des années 60, on le fait ensemble, mais j'aime reprendre cette image qu'on a vue dans l'histoire de Ruth. Comme Ruth, on est peut-être invité à aller glaner dans le champ d'un autre, d'un champ qu'on ne connaît pas, pour y glaner de beaux épis. C'est ce qu'on fait, par exemple, pendant ces cultes de l'été. On ose se déplacer au CEPOM, on ose venir ici à l'église évangélique. On ne cultive peut-être pas les mêmes plantes ou pas de la même manière, mais on partage la même terre de mission, ensemble dans le champ de mission du Seigneur. Alors bien sûr, dans le livre de Ruth, on nous dit que quand ils sont retournés à Bethléem, c'était la saison des moissons de l'orge. Peut-être qu'en Moab, on cultivait plus du blé. On a découvert d'autres choses en se déplaçant. Oui, ces cultes de l'été, occasion d'aller sur le terrain de l'autre, d'y être accueilli, comme Boaz a accueilli Ruth avec bienveillance. Noémie connaissait son histoire, comme je le disais, et c'est important de continuer de transmettre notre histoire aussi entre nos deux communautés. Alors, on l'a entendu, pour ces trois familles, il y a eu un fruit, la vie, cette naissance, Obed, qui est née, la vie qui tout d'un coup rejoint cette famille, donne une survie à Noémie. J'y reviendrai très brièvement tout à la fin. Mais où je souhaite revenir, en faisant allusion à notre histoire, c'est Boaz et Ruth, quand ils se marient, il y a aussi une alliance. On a entendu que Boaz a fait les choses en ordre au niveau administratif en demandant à un autre si ce n'était pas lui qui voulait se marier. Au niveau administratif, on a essayé de bien faire les choses entre la paroisse protestante et l'église évangélique et on a une convention ecclésiale. C'est un nom un peu particulier pour dire qu'on est unis, qu'on a une alliance entre nous. Alors je pose la question, qui est-ce qui sait, qui savait, qu'on a une alliance, une convention ecclésiale entre nos deux communautés? Je vous invite à lever la main. Qui est-ce qui sait? Il y en a pas mal, mais pas tous. Alors c'est bien, parce que justement, c'est l'occasion de redire notre histoire. Puis plus que simplement de la redire, je l'ai apportée, cette convention. La voilà. Et on peut la montrer en grand pour... Je ne sais pas si c'est beaucoup plus grand pour vous. Vous pourrez la regarder tout à l'heure. Quand je suis arrivé, il y en a un, il m'a dit « Ah, il y a de la dédicace !» Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé là-dedans aussi, c'est que justement, il y a le texte assez administratif avec des articles, des alinéas à droite, mais quand même sur papier parchemin. Puis à gauche, il y a les signatures de tout le monde, tous ceux qui étaient là. Avec les blés à côté, les fruits. Donc effectivement, une convention ecclésiale, vous l'avez en ensemble. J'espère que ceux qui ont signé là, ils ont levé la main quand même tout à l'heure, parce qu'il y en a plein. Elle n'est pas si vieille que ça. Oui, les relations, c'est depuis les années 60. Là, elle date de 2007. Ça a été revu quand les locaux ici ont été ouverts. Donc, il y a cette convention signée. Et qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je ne vais pas toute vous la lire, mais dans le préambule, ça me semble important. Il y a la première extrait que vous verrez peut-être, j'espère, parce que je dois le lire aussi. L'image suivante, s'il te plaît, Thierry, excuse, là, il y en aura deux successives. Voilà, la paroisse et l'Église confessent ensemble que Jésus-Christ est l'unique Seigneur et Sauveur et reconnaissent avoir reçu de lui vocation d'annoncer l'Évangile à Mérin. La suite du préambule mentionne aussi ces différences que j'évoquais, qu'on a entre nous, mais aussi ces points communs, comme celui-ci. Et on le retrouve d'ailleurs un tout petit peu plus loin, je crois que c'est l'image suivante, non, je ne l'ai pas mise, mais ce n'est pas grave, mais ça me semble aussi important, on redit des choses qui ont été faites ensemble ou qui continuent. Alors, les célébrations des cultes en commun, on y est. Des célébrations écuméniques, notamment avec, lors des fêtes chrétiennes, aussi avec la paroisse de la Visitation, évidemment, qui elle aussi était nouvelle dans les années 60. Il y avait Saint-Julien qui existait déjà. La Visitation a été créée à ce moment-là. C'est la paroisse catholique, effectivement, entre nos trois paroisses. Des échanges de chair. À l'époque, quand il y avait plus de pasteurs protestants, c'était une fois par mois, sauf erreur, qu'il y avait un pasteur protestant qui prêchait. C'était dans la chapelle, là, à l'époque. Partage l'organisation commune d'école du dimanche. Alors ça, ben, j'en suis peut-être le fruit direct, mais j'ai appris bien des années plus tard que la dame qui me donnait l'école du dimanche dans l'annexe qui était ici, elle est encore ici cette dame, ben, elle était peut-être plutôt réformée qu'évangélique, mais ça je l'ai découvert que bien plus tard. Voilà, ces collaborations qui se faisaient. Partage de groupes de réflexion écuménique, peut-être à relancer, ça on en parlera. Enfin, plusieurs manifestations publiques de témoignages dans la cité qui se sont faites ensemble avec la liste qui peut continuer. Et après, cette convention, elle mentionne différentes choses. Alors, c'est effectivement un petit peu administratif. C'est l'image suivante où j'ai mis que les titres qui étaient mentionnés. La nécessité de se communiquer les uns aux autres nos projets. Il y a tout un article justement sur les cultes en commun. L'accompagnement des enfants et des jeunes. Ben voilà, je donnais mon exemple, mais ça évoque aussi ces possibilités d'avoir été dans une communauté, puis après dans l'autre, qui est possible. Les aumôneries, le texte là, il dit qu'il n'y a pas grand-chose à l'époque, mais je sais qu'il y a eu les pasteurs évangéliques qui ont participé au culte à l'EMS Jura, à la résidence Jura, et encore aujourd'hui, il y a Denise Albissère qui est aussi présente dans ces célébrations qu'on prépare ensemble. Enfin, les locaux, alors là, c'est peut-être un peu plus administratif, mais effectivement, je mentionnais au début que dans 15 ou 3 semaines, on sera là à côté. Ben, c'est évoqué dans cette convention, ça rappelle comment on peut éventuellement se retrouver à utiliser cette chapelle à côté. Alors, merci de continuer de la faire vivre, merci de nous permettre de se réunir ici dans 3 semaines. Je vais conclure. Oser la différence, oser la rencontre avec la différence. On le voit avec ces trois familles différentes qui ont porté du fruit, qui ont porté la vie. Accueillir la différence comme Ruth, la Moabite, pourtant arrière-grand-mère du grand roi David. D'ailleurs, cet enfant, il s'appelle Obed. Obed, c'est un nom qui est de la même famille que le mot serviteur, et en particulier serviteur de Dieu. Alors oui, ensemble, nous sommes invités ici avec nos différences à être des serviteurs de Dieu. Et je termine avec une citation, alors ça c'est vraiment ma génération, mais j'ose espérer qu'elle a traversé un petit peu plusieurs générations, tant l'auteur est connu. Je te laisse mettre la dernière image, Thierry. Jean-Jacques Goldman, « Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. » Effectivement, on n'est pas toujours parfait, on a l'impression que les autres font mieux, ou au contraire qu'ils sont moins bien. Eh bien, qu'on puisse continuer de vivre ensemble avec toutes nos différences, tous nos défauts qui sont autant de chance. Amen.
Je vais maintenant vous donner la parole dans la prière. Si quelqu'un d'entre vous a envie de rebondir sur ce que Nicolas a dit, ou sur l'histoire de Ruth, ou sur l'histoire de notre monde, vous pouvez prendre la parole à haute voix ou prier dans votre cœur. Prions ensemble. Seigneur, nous avons besoin de toi pour nous aider à nous ouvrir aux différences des autres, pas seulement dans des communautés différentes, mais aussi dans les personnes que nous rencontrons, que les différences ne nous fassent pas peur, que nous puissions les considérer comme des chances. Je te remercie pour cette collaboration entre les trois communautés qui sont à Mérin. C'est une possibilité de ne pas rester enfermé dans une seule façon de penser. Et pour moi, c'est une richesse. Merci, Seigneur. Amen.
Je te loue, Seigneur. Pour toi, il n'y a pas de frontières. Tu as accueilli tout le monde. Tu nous as prêté cette terre parce que nous devons la quitter. Pour une terre beaucoup plus belle, aux côtés de toi, Seigneur. Merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir renouvelé, Seigneur, de m'avoir pardonné. Je te loue de tout mon cœur, Seigneur, et je te remercie pour tous tes bienfaits. Amen.
Amen. Amen.
Oui, Seigneur Jésus, merci parce que au-delà de nos différences, nous nous retrouvons autour d'une personne, autour de Jésus-Christ. Je crois que Seigneur, c'est le lien, c'est le ciment qui nous unit, c'est le ciment aussi qui maintient nos relations. Ben, Seigneur, nous te demandons que pour l'avenir, merci pour le passé aussi, pour nous voulons te remettre cet avenir de relations, Seigneur, que tu la bénis, Seigneur, que tu continues par ton Esprit Saint à bénir ces relations, Seigneur, aussi entre nous. Seigneur, merci pour cette grâce que nous pouvons nous connaître les uns les autres. Amen.
Amen.
Merci Seigneur parce que au travers de notre histoire ici à Mérin, au travers de notre rencontre les uns des autres, notre reconnaissance, tu élargis notre cœur. Tu nous fais participer à la bénédiction que tu as promise de siècle en siècle, de famille en famille. Et nous te prions Seigneur que cette bénédiction puisse continuer dans ces années qui viennent. Parmi nous, nos paroisses et nos échanges. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Seigneur, nous te prions aussi pour notre monde. Je te remets tous les pays qui sont en guerre, toutes les personnes qui en souffrent. Je te prie d'ouvrir les yeux de ceux qui décident la guerre, afin qu'ils voient ce qu'ils font et qu'ils arrêtent. Je te prie pour tous ceux qui en souffrent, afin que
ils ne se sentent pas seuls et abandonnés. Je ne sais pas si c'est possible, mais Seigneur, par ton esprit, tu peux tout faire. Je te remets tous les soucis que nous avons dans notre monde actuel. Aide-nous à te les apporter, à nous décharger sur toi et à ne pas être tout le temps stressés, à ne pas être tout le temps en souci, mais à pouvoir accueillir ce que tu veux nous donner et accueillir les autres aussi et avoir du plaisir les uns avec les autres. Seigneur, je te remets tous ceux qui sont malades, qui sont en deuil, qui sont tristes, qui ne vont pas bien. Sois avec eux. Merci notre Dieu parce que tu nous écoutes toujours. On ne voit pas toujours tout de suite la réponse à nos prières, mais nous savons que tu nous entends et qu'un jour nous verrons cette réponse. Merci. Amen.
Merci Seigneur parce que comme Ruth était au fond du trou au moment elle a perdu son mari, elle est décédée. Elle a perdu ses deux fils, ils sont décédés. Elle était humiliée par ses compatriotes, par ses... Elle était au fond du trou, vraiment. Et on a vu l'histoire. Elle remonte Ruth à la première place. C'est une ancêtre de David et donc de Jésus. Et je crois que Dieu, il veut aussi nous relever dans tous nos passages de vie.
Amen.
Jésus est venu relever le faible. Et c'est ce dont nous nous souvenons quand nous prenons la scène, qu'il est venu nous relever et que son amour a triomphé. Quand il était à table avec ses disciples, il était là avec tous ses disciples, avec toutes leurs différences, avec leurs défauts, plus ou moins faciles à supporter, et aussi leurs qualités. Il les connaissait bien, ça faisait 3 ans qu'il les supportait. Je me souviens qu'une fois, il a dit, mais jusqu'à quand est-ce que je vous supporterai? Et puis, il a donné le pain à chacun. Il l'a donné à Judas. Pourtant, il savait que celui-ci allait le trahir. Il l'a donné à Pierre. Il a donné le pain à Pierre. Il savait que Pierre allait le trahir, allait le renier. Et puis, autour de cette table, il y a aussi beaucoup d'autres personnes, membres de la famille de Jésus. Il y a Tamar. Tamar, la belle-fille de Judas. Elle avait perdu son mari. Elle devait être donnée au fils, qui était donnée au fils, mais le fils n'a pas voulu donner une descendance à son frère. Et puis après, le père a oublié de donner le troisième fils. Elle était très fâchée. Elle a osé réclamer le droit d'offrir une descendance à son mari. Elle a couché avec son beau-père. Je ne crois pas beaucoup de femmes parmi nous feraient ça actuellement. Elle a couché avec son beau-père. C'était, voilà, pour avoir une descendance à son mari. Et puis, il y a aussi Rahab, dans cette généalogie de Jésus, cette femme qui, pour sauver sa famille, a protégé, a mis à l'abri des espions israéliens lors de la conquête de Jéricho. Et il y a aussi Ruth, qui était une étrangère comme Rahab, qui, comme Tamar, a bénéficié du droit de rachat. Mais bon, je pense qu'il y avait quand même une belle histoire. Ruth et Boaz étaient quand même attirés l'un vers l'autre. Et qui a fait qu'il y a eu Jésus. Elle a aussi bénéficié du droit de rachat pour donner une descendance à son mari et de quoi vivre à sa belle-mère. Il y a toutes ces personnes, toutes différentes. Et puis, toutes différentes et aussi toutes imparfaites. Je crois que personne ne peut se targuer d'être parfait, de tout faire comme Jésus le voudrait, même si on essaye. Donc, en venant à cette table, qu'aucun d'entre vous ne se sente rejeté ou pas voulu. Jésus est venu pour chacun d'entre nous, pour tous, sans exception. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en mangerez. » Après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance où mon sang qui sera versé pour une multitude de personnes pour le pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous le dis, je ne le boirai plus jusqu'à ce que je le voie nouveau dans le royaume de mon Père. » Nous prions.
Seigneur, merci parce que tu nous unis. Merci parce que tu nous accueilles autour de cette table. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que nous faisons partie d'une famille ou d'une autre. C'est vrai, il y a nos différences, mais lorsque nous nous retrouvons autour de la table, nous sommes une seule famille. Merci d'être là, Église du Christ. Merci de nous rassembler, merci de nourrir notre foi par ce repas. Que ton esprit descende sur nous pour que nous soyons un seul corps, unis les uns aux autres et unis à toi. Amen.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fait de 1000 grains de blé qui ont fait un pain, comme nous faisons une église. La coupe de vin est la communion au corps au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé pour que nous soyons pardonnés et assurés de l'accueil de Dieu. C'est John qui l'a qui a préparé la table, mais c'est le Seigneur qui vous invite. Comme c'est l'habitude chez nous, nous allons passer dans les rangs avec le pain et le vin. Le pain et le vin. Le jus de raisin est dans les petits gobelets roses au milieu des plateaux. Si quelqu'un veut la coupe, qu'il lève la main.
Thank you.
Seigneur, merci parce que tu es venu nous chercher. Merci parce que ton amour a triomphé. Merci parce que tu es là. Amen. Et nous chantons que tu es une seule église qui conclura bien notre culte. Et pendant ce chant, nous recueillerons l'offrande. Ne vous étonnez pas si tout le monde ne met pas quelque chose dans les paniers, dans les sacoches qui vont passer. Nous pouvons aussi faire notre offrande directement sur le compte en banque ou par Twint.
Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un
merci à chacun pour cette offrande. Seigneur, que ton amour nous unisse les uns aux autres. Cette offrande, c'est aussi un signe de notre unité parce qu'elle est pour nous deux communautés. Elle les fait vivre. Bénis-nous, Seigneur. Amen. Et nous restons debout pour la bénédiction.
Pour la bénédiction, j'ai repris celle que Boaz a adressée à Ruth la première fois qu'ils se sont rencontrés, peut-être avec le même élan que Claude a eu tout à l'heure quand il a joué. Ruth qui va donner naissance, et je vois cette bénédiction comme un encouragement pour nos communautés à continuer sur ce chemin pour partager la vie, pour donner la vie, pour porter la vie de Jésus ici à Mérin. Que le Seigneur te récompense pour ton action. Oui, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te récompense abondamment, puisque c'est sous ses ailes que tu es venu chercher refuge. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il soit votre refuge et qu'il puisse être celui qui vous accompagne et vous donne sa paix. Allez dans la paix du Christ. Amen.